Bon, eh bien, nous allons commencer puisque miraculeusement, nous commençons à l'heure. Là, c'est vraiment exceptionnel. Il faut croire que tout le cosmos est avec nous en phase, hein, grâce à vous. Donc, notre sujet, on est dans la maison de l'imaginaire. Vu ce qui se passe autour de nous en ce moment, je me demande si il est vraiment nécessaire d'être dans la maison de l'imaginaire pour évoquer ce qu'on va évoquer entre les désordres climatiques et les soucis du devenir au minimum de notre planète. Mais on va quand même être dans la projection dans l'avenir, ou la projection de l'avenir qu'en ont eu certains, ou l'image qu'en ont donné certains dans le passé, donc de ces grands phénomènes climatiques et de ces grands désordres que nous provoquons peut-être, et puis c'est une question que je vous poserai sûrement, que nous provoquons peut-être, mais qui ont toujours aussi... peut-être été provoqué par des forces qui sont immanentes et à la planète et à ce qui tourne autour. Donc, tout au bout là-bas, c'est pas très bien, Farid Abdelwahab, qui, lui, va nous parler des colères du temps. Alors, le titre est déjà un beau titre. Les colères du temps, réalité et imaginaire des désordres climatiques. Vous êtes occupé spécifiquement de l'iconographie.
Je me suis occupé en fait du pan imaginaire. J'ai fait ce livre avec Frédéric Danhé,
oui,
qui lui a pris en charge, on va dire, le côté science dure. Et moi, je me suis occupé du côté culturel, des aspects culturels. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est un livre qui est né d'une rencontre et d'une discussion autour d'un verre, mais de deux même, je crois.
Et, il faut ça.
Et en fait, on a comparé, si vous voulez, nos mises en perspective. Lui avait déjà fait des histoires du climat. Il a une mise en œuvre assez pédagogique. On l'entend de temps en temps sur France Inter, oui. À CO2 Mon Amour. Il est à la fois ingénieur et historien de l'environnement. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de comparer ces deux mises en perspective-là pour voir comment les imaginaires, à la fois scientifiques et artistiques, narratifs, littéraires, etc., se rencontraient ou non, et comment les uns se nourrissaient des autres, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une histoire, ce qu'on a fait dans cet ouvrage, c'est une sorte d'histoire parallèle qui, de temps en temps, se rencontre et qui, de temps en temps, dialogue.
Oui, donc vous allez de la fiction pure à des événements historiques ou à des faits réinterprétés.
C'est ça, mais en fait, si vous voulez, souvent la fiction et la philosophie de l'histoire, la philosophie des sciences, l'histoire scientifique, l'histoire imaginaire ont des rencontres assez, assez inopinées. C'est-à-dire que vous avez parfois des théories scientifiques qui naissent après des projections totalement fictionnelles et vous avez des constats, on va dire, à l'inverse, vous avez des constats soi-disant réels de projections qui sont en relation avec des imaginaires. Vous voyez, c'est un univers qui dialogue en permanence.
Oui, dans les deux sens, c'est ça,
voilà.
le mouvement.
Et il y a des fois des choses assez... Enfin, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler.
Mais sinon, Maléchi, si vous avez des exemples...
Oui, si vous voulez, il y a des projections, c'est-à-dire que les littérateurs, les artistes, à partir d'une nouveauté scientifique, vont construire un champ du possible, oui. qui n'a pas de limite, puisque eux, sur le territoire fictionnel, ils peuvent aller où ils veulent. Ce qui est intéressant, c'est que certaines... Alors, vous avez comme ça une sorte de pépinière, si vous voulez, de possible, de champ du possible, et au sein de cette pépinière, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir une sorte de cristallisation, de réalisation, de mise en œuvre qui va pouvoir s'opérer de façon scientifique. À l'inverse, vous avez par exemple des récits qui ne sont pas forcément imaginaires mais qui relèvent de la croyance, du fantasme ou de la psychanalyse même parfois, qui rentrent en interaction totale avec des récits totalement fictionnels. Bon, je vous donne un exemple, hein, très, pas dans le champ justement de l'histoire là pour le coup des changements climatiques, mais dans ces relations histoire, science et imaginaire, on s'est rendu compte, par exemple, j'avais fait il y a quelques années un dictionnaire des mondes extraterrestres. Dans lequel on avait dressé comme ça tous les grands archétypes que la figure des extraterrestres représente dans l'histoire occidentale. Et en fait, on s'était rendu compte qu'on avait dans les témoignages, par exemple, de rencontres avec des extraterrestres, on avait des scénarios narratifs qui existaient déjà dans la littérature un siècle auparavant. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, une structure comme ça, une sorte de structure scénaristique qui relève à la fois de l'imaginaire, mais qui était rapportée comme des rencontres réelles. Donc là, on est sur des territoires très, très fluctuants, quoi. Sur l'histoire des changements et des bouleversements climatiques, vous avez dans les discours catastrophistes écologiques contemporains ou dans tout simplement les fictions, ça peut être des films, des gros blockbusters américains, comme ça peut être des écrits ou des fictions pures, vous avez des schémas qui, quand on tire le fil, si vous voulez, la pelote vient avec, et qui sont des avatars, d'une certaine façon, d'histoires qui sont très très anciennes et qui remontent presque à l'aube des temps. C'est-à-dire que le principe du déluge, par exemple, qu'on a traité dans un des chapitres, ou de l'apocalypse, relève vraiment de schémas qui ont plusieurs milliers d'années.
Oui,
quoi.
Ce sont les premiers que l'on pense et qui sont réactivés dès que
c'est ça.
Dès qu'un volcan s'agite un peu ou que...
C'est ça. Donc, si vous voulez, on est porteur à la fois d'un inconscient collectif qui lui-même exprime aussi et porteur aussi de théories scientifiques, comme les théories scientifiques sont aussi porteuses d'imaginaires. Donc,
mais chaque fois, vous avez une surimpression, vous avez quelque chose qui s'ajoute à cause de l'esprit de l'époque, à cause de phénomènes historiques. Je pense par exemple à des temps de culpabilité, on se dit c'est notre faute si ça se passe comme ça.
Pour le coup, l'histoire de la culpabilité, elle est un peu permanente, surtout dans la conception judéo-chrétienne, et surtout dans la conception judéo-chrétienne qui est inséparable d'une perception du temps qui est un temps linéaire. Oui. C'est-à-dire qu'avec l'avènement du Christ, quand le Christ arrive sur Terre, en même temps qu'il ouvre une nouvelle ère historique, en même temps il la ferme, c'est-à-dire que son arrivée va annoncer la fin, c'est-à-dire va annoncer le jugement et le retour du Christ pour le jugement sur terre. Donc il y a là, si vous voulez, à la fois le début d'une parenthèse et la fermeture d'une parenthèse, et cette perception là du temps et de l'espace d'une certaine façon enferme l'Occident dans un rapport qui est extrêmement culpabilisant, puisque que ce soit au Moyen-Âge ou encore aujourd'hui, on va essayer de trouver le doigt de Dieu dans les manifestations naturelles.
Oui, tout à l'heure on était avec Alain Rey sur le diable et c'était la même chose. Quand ça n'allait pas, il fallait bien trouver les coupables. On s'était toujours voilà. Les mêmes. On va pas faire la liste ici. C'est voilà. En général.
Oui. Il y a un retour. Là, on se retourne toujours. Enfin, surtout au Moyen-Âge, on prenait généralement, c'est toujours les mêmes hein, qu'on oui. choisit. C'est les fameux boucs émissaires, quoi, et qui vont justement en brûlant sur les bûchers vont permettre d'une certaine façon une rénovation et une épuration de la sociale, quoi, et culturelle.
Oui, et puis, geste qui rassure aussi la population voilà, en direct voilà. Également. Donc là, il y a toujours cette moralisation, cette espèce de plaquage d'une vision du monde très, très cadrée, en fait, très normée sur quelque chose qui échappe complètement.
Oui, mais
parfois.
Qui à la fois, ce qui est intéressant, c'est de voir, sur les histoires du déluge, par exemple, c'est de voir comment, ou de l'apocalypse, d'ailleurs, de toute façon, les deux sont en relation, c'est-à-dire que le déluge, c'est vraiment, c'est une rénovation du monde par les eaux, l'apocalypse va l'être d'abord, enfin, au fond, par le feu, mais ça commence toujours par des signes. Si vous voulez, ce qui nous a intéressé, c'était de voir comment les manifestations célestes s'introduisaient d'une certaine façon dans tous ces grands scénarios, dans toutes ces mythologies qu'on retrouve, enfin en tout cas pour l'Apocalypse comme pour le déluge, qu'on trouve quasiment dans toutes les cultures humaines. C'est-à-dire, c'est vraiment des mythes universels.
Oui.
Quoi.
Donc là, on est dans un. Je ne veux pas dire que c'est un bilan, mais si vous dans ce livre-là, il n'y a pas de prospective.
Alors, un petit peu quand même, parce qu'on sait aussi, il y a un chapitre qui concerne la façon dont l'homme a toujours voulu changer le temps.
Oui.
Donc, ça commence dans le champ du sacré, c'est-à-dire que c'est avant tout des invocations, des chants, des danses. Bon, on peut trouver ça en Amérique du Nord, chez les Indiens Hopi, par exemple, en Arizona, ou chez les Cherokees. Dans le monde chamanique, d'une façon générale, on retrouve des invocations, des chants qui vont faire pleuvoir. Il y a d'ailleurs des histoires assez étonnantes de ce point de vue-là, des témoignages assez étonnants. Vous avez même en Inde aussi, hein, dans l'Inde ancienne, vous avez le raga, en fait, la structure mélodique indienne, à la base, en fait, sert d'invocation pour la pluie. Vous avez des danses et des chants indiens qui ont pour but de faire pleuvoir. C'est des légendes, hein, ça relève du conte et de la légende, mais un des grands initiateurs du raga en Inde a en fait une révélation en entendant des gouttes de pluie tomber sur un étang, ce qui lui a donné, parce qu'en fait ça fait comme des sortes de percussions à la fois aquatiques et sonores, ce qu'on retrouve dans la musique indienne, et en fait c'est ça qui lui a donné l'inspiration pour inventer de nouvelles formes
musicale.
Pour une harmonie imitative qui part...
Voilà. Alors là, on est sur le chant du sacré, mais après, on s'est posé la question de comment ça se traduisait aujourd'hui et comment ça s'était traduit plus récemment, à la période moderne et contemporaine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours eu cette tentative, cette volonté, par le domaine sacré ou technique et scientifique, d'agiter. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'expériences qui sont menées et des accords entre pays, d'accord, hein, qui sont. Alors tout ça se passe à ma connaissance, de façon assez opaque en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait des sociétés qui travaillaient pour des gouvernements actuellement, et des gouvernements qui se mettaient d'accord pour mettre en place de véritables opérations interrégionales pour faire pleuvoir ou pour assécher, qu'il y avait eu des grandes campagnes qui avaient été menées à certains moments pour les Jeux Olympiques par exemple en Chine. Ils avaient vraiment mis en place énormément de lancements d'avions qui envoyaient des produits chimiques pour cristalliser et provoquer, mais vous allez sans doute en parler mieux que moi, pour provoquer les pluies. Et on s'est posé la question de savoir tout ça n'est pas très clair en tout cas, et est-ce qu'il y a des conséquences, parce que c'est quand même des nouvelles impulsions physico-chimiques, est-ce qu'il y a des conséquences écologiques ou pas? Moi, j'ai pas la réponse personnellement. Mais en tout cas, voilà, c'est un fantasme. Et puis à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ce qui existe encore, vous savez, c'est pour éviter la grêle. On lançait les canons à grêle.
Dans les vignobles du Bordelais, on voyait ça.
Voilà, dans les vignobles du Bordelais, surtout dans les vignobles, hein, d'ailleurs. Oui. Alors, ça existe encore, d'ailleurs, hein, les canons à grêle, ça s'est modernisé.
C'est des fusées, ces espèces de fusées.
C'est des espèces de fusées. Et en fait, si vous voulez en acheter, c'est sur le net, hein, vous pouvez acheter un canon pour faire pleuvoir. Ils en font maintenant avec des remorques, un système de remorques qu'on peut accrocher à une voiture. Et ça coûte, j'ai plus les prix en tête, mais regardez sur Internet, on peut en acquérir facilement.
Alors, le canon à neige au sport d'hiver, voilà. C'est ça. Tout ce qu'il faut. Donc voilà, mais très logiquement, évidemment, on passe à vous, parce que là, on est nettement plus loin. La catastrophe, il va falloir l'éviter et préparer nos enfants. Mais vous avez choisi la voie la plus agréable pour eux, c'est-à-dire la fiction.
Pour expliquer tout ça, vous voulez dire?
Pour expliquer tout ça et donner, et montrer qu'on n'est pas non plus totalement désarmé, qu'il peut y avoir une volonté, qu'il peut y avoir je dirais pas jusqu'à dire un grand espoir, mais si, quand même, on va pas fermer les portes.
En tout cas, ce qui me paraît absolument clair, c'est que si on n'a pas les outils de compréhension, on ne risque pas de trouver une solution. Enfin, peut-être qu'on peut reprendre les choses au départ. Par exemple, si on parle du climat, si on parle de l'environnement, bon, moi, je n'ai pas fait mes études là-dessus, mais je me suis renseigné pour écrire Le Prince des Nuages.
C'est le premier volume d'une trilogie.
Voilà, et du coup, je me suis renseigné, je suis allé parler avec pas mal de professeurs un petit peu partout. Les équations, je les connaissais, mais l'application, ça devient quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et du coup, il y a des choses qu'on comprend extrêmement bien et sur lesquelles il n'y a pas de débat. Du style, il y a une étoile, le soleil, qui rayonne de l'énergie dans l'espace. Juste pour vous donner une idée, on sait quelle énergie est rayonnée par le soleil. On sait par exemple qu'en une seconde de l'énergie du soleil, on a suffisamment d'énergie pour les besoins actuels de l'humanité pendant environ un demi-milliard d'années. Donc de l'énergie, il y en a. La récolter,
c'est plus compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué, mais l'énergie est là. On sait que cette énergie est rayonnée dans l'espace. La Terre, un petit bout de poussière, certains d'entre vous, j'ai l'impression, étaient déjà là ce matin pour voir la taille de la Terre par rapport au Soleil. C'est minuscule, mais ça récolte quand même de l'énergie du Soleil. Et on sait combien. On sait exactement combien, par mètre carré sur Terre, il y a d'énergie du Soleil qui arrive. Et on sait même aussi combien d'énergie repart de la Terre. Et on sait qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'est établi dans le ciel, dans l'atmosphère. Cet équilibre, il est dû à l'effet de serre et à tout ça. Et cet équilibre, il marche. Dans un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a autant d'énergie qui arrive que d'énergie qui repart. Pile autant. C'est ça qu'on appelle un équilibre. Si on change la composition de l'atmosphère, on change l'équilibre. Il ne sera plus au même endroit. Il y aura un petit peu plus d'énergie qui va rester que qui va partir jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit atteint. Et ça sera équivalent à nouveau. Il y en a autant qui partira et autant qui restera. c'est une fois de plus l'effet de serre. C'est un effet qui est naturel. Sans l'effet de serre, sans notre atmosphère qui serait autour de, qui est autour de la Terre, il ferait moins 18 en moyenne sur toute la Terre. Là, il fait plus 15 en moyenne. Moins 18, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de pluie, il fait froid, il n'y a pas de vie. On ne peut pas, nous, vivre dans un monde où il n'y a pas de l'eau liquide à la surface. Enfin, on ne serait pas apparu, je veux dire.
Oui.
Il fait plus 15, c'est bon. Si on change la composition de l'atmosphère, eh ben, ça fait un petit peu plus chaud. Ça peut faire même beaucoup plus chaud. Ça peut changer la face de la Terre, oui. C'est déjà arrivé par le passé. Et là, ça, c'est des choses qu'on comprend très bien. On sait même quelles sont les sources de ce changement d'équilibre. Et on sait aussi que certaines d'entre elles sont humaines. La grande majorité, oui, même, sont humaines. Vous mentionniez tout à l'heure que c'était déjà arrivé dans le passé, ce genre de réchauffement. C'est le cas.
Mais oui, c'est, oui, ça qui nous...
Il y a eu des périodes beaucoup plus froides, il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes, même que ce qu'on vit maintenant. Mais ces nouveaux équilibres ont été atteints sur des millions d'années.
Oui.
Là, on parle de centaines.
Là, ça va vite, c'est ça,
ça
le problème.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et là, ça rend les choses un petit peu plus compliquées pour l'adaptation. Après, que ce soit arrivé par le passé, oui. Que ça ait tué la Terre par le passé, non. Que ça tuera la Terre cette fois-ci, non. La Terre est quand même 100 fois plus costaud que nous. Mais ça crée des changements qui sont... Il faut faire un petit peu attention, quoi.
Oui, bien sûr. Non, vous avez raison quand vous disiez que ça, dans les changements, quand on a des perspectives actuellement sur la fin du monde, il y en a une série encore qui est sortie récemment, c'était pas la fin du monde, c'était la fin de l'humanité.
Oui, alors il y en a qui disent c'est très bien pour la Terre. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Hein.
Nous, non, j'ai pas dit
qu'il y a pas bien. On est bien ici.
On projette bien souvent uniquement. Oui, non. Je n'ai pas envie qu'on disparaisse tous, moi la première d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tout un discours autour de ça et toute une...
Voilà, c'est ça qui est justement qui est compliqué, c'est qu'il y a un livre très intéressant qui s'appelle « La fin du monde, une histoire sans fin », qui fait une sorte de récapitulatif de toutes les théories de fin du monde qu'il y a eu depuis 1500 ans. Et on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui est rémanent, qui est dans les cultures, ça revient en permanence.
C'est-à-dire pas le livre de Bernard Sergent ?
Non, c'est de Boya.
Ah oui.
Ce qui est très intéressant, parce que justement, il fait un récapitulatif. Et c'est là ce qui est ambigu aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le déséquilibre radical, quand même, auquel on assiste depuis un siècle, on va dire, un peu plus d'un siècle, qui représente notre intervention, hein, on est bien d'accord là-dessus, c'est vraiment l'intervention humaine qui est porteur de ce déséquilibre et que sur une chronologie aussi courte, c'est quand même une nouveauté.
C'est du jamais vu.
Voilà. Et alors c'est là où c'est la porte ouverte, si vous voulez. La fin du monde a toujours été un fantasme humain, mais là, pour le coup,
oui.
ce n'est peut-être plus seulement qu'un fantasme.
C'est plus la fin d'un monde.
De notre monde.
C'est ça. Mais bon, il y a une sorte d'anthropocentrisme là-dedans, parce que d'abord, on n'est pas seul, a priori, enfin, il y a de fort peu de chances pour qu'on soit les seuls êtres vivants dans cet univers. Oui. Je pense que là-dessus,
vous êtes sûr de ça ?
Non.
Si, pas du tout. Si, on a tout à fait.
On peut faire un test. Hein, qui pense qu'il y a des extraterrestres dans l'univers ?
Non, là, ça relève de la foi personnelle. Hein.
Oui, mais justement, on va voir. Bon, qui pense que ça existe, la vie ailleurs dans l'univers ?
Moi.
Qui pense qu'il n'y en a pas ?
Moi, la première.
Qui pense qu'il y en a dans la salle ?
Non, on ne va pas leur demander de retirer leur masque. Les tentacules ne sortent pas avant 9h du soir.
Bien sûr. Là pour le coup, à l'heure qu'il est, ça ne peut relever que de la croyance personnelle, on est d'accord. Mais bon, le champ des probabilités nous dit quand même qu'il y a quelques chances pour qu'une vie évolue ou non puisse exister quelque part.
Mais voilà. Je sais pas, bien que c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est pas une justification à la destruction de la vie sur Terre.
Non, pas du tout. Ce que je voulais simplement dire, c'est que si vous voulez, l'anthropocentrisme, il est sur ce terrain-là, c'est-à-dire que la destruction de l'homme correspond pour l'homme à la destruction de l'univers dans son inconscient. C'est-à-dire voilà, le dernier homme qui fermera. Est-ce que l'univers, on peut se poser la question, est-ce que l'univers existera encore quand le dernier homme aura fermé l'œil?
Vous savez bien l'histoire.
C'est une question.
Le dernier homme rentre, se couche, et le dernier, il ferme sa chambre et on tape à la porte.
Oui.
C'est une vieille histoire de science-fiction qui marche toujours bien.
Inquiétant un peu. Très...
Bien sûr, évidemment. Non, mais l'anthropocentrisme, comment y échapper ? C'est-à-dire sortir de soi et sortir de sa forme et de sa pensée humaine, ce n'est quand même pas un exercice si facile.
Non, mais sans dire sortir de l'anthropocentrisme ou de l'anthropisme, ou je ne sais pas comment vous diriez ça, il y a des évolutions de pensée entre les époques. On peut bien ne pas penser comme nos ancêtres.
Oui.
Et ça, c'est le cas d'ailleurs. Mais juste pour par rapport à ces désastres potentiels futurs, comme vous le disiez, médiatiquement et dans l'imaginaire collectif, on se prend de la catastrophe en permanence. Et une des raisons pour laquelle je m'étais mis à écrire ce livre, c'était parce que, justement, à chaque fois qu'on est devant la télé, en tout cas, c'était il y a 6 ans, c'était juste avant le dernier rapport de l'ONU, avant celui qui vient de sortir là, et ben, aux 20h, la une des journaux, etc., c'était « c'est une catastrophe ».
Ah oui, oui.
Est-ce que quelqu'un prenait la peine d'expliquer ce que ça veut dire ?
Non.
Et les adultes, nous, on a quand même quelques garde-fous pour pas devenir dingue en entendant des catastrophes futures. Les enfants, non. On leur dit que ça va être la fin du monde. Oui. Un adulte, bon, il va rigoler un peu, il va dire bon, et puis il va oublier une demi-heure après. Un enfant, non. Ils le gardent. Et c'est eux qui vont devoir trouver des solutions aussi derrière. Donc s'ils partent avec ce côté catastrophique, où j'aimais pas, du coup j'ai préféré partir sur l'explication. On comprend certains phénomènes, pas tous. On comprend certaines causes, pas tous les effets. Une fois qu'on a les clés en main pour parler d'un problème et pour parler d'une éventuelle, effectivement, catastrophe potentielle, eh ben on trouve une solution, on cherche, on y va.
On sait du moins qu'il est possible d'en trouver une, ce qui devient
c'est
moins
effarant. C'est pas forcément ce que j'ai dit, mais plutôt que d'avoir systématiquement du catastrophisme qui fait qu'au final, on se dit, bon, ben, foutu pour foutu, autant faire n'importe quoi. Non, on a une chance incroyable par rapport à nos ancêtres, c'est qu'on a compris des choses sur la nature que nos ancêtres n'avaient pas. Ça, c'est une des choses que je mets dans le nouveau livre. Là. Ça m'étonnerait que quelqu'un d'entre vous l'ait lu, il n'est pas sorti encore.
Regardez-le quand même.
Mais il y en a qui l'ont acheté hier, donc à moins qu'il l'ait lu dans la nuit, ça m'étonne. Mais bon, bref, il y a un endroit où je dis que... Oui, des catastrophes, il y en a eu. C'est ce que vous aviez dit aussi. Non, ça existe.
Cela dit, on peut aussi se poser la question. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a la connaissance d'un phénomène et d'une réalité de répercussions, etc., sur l'action humaine, etc., que ça va entraîner forcément une réaction et une action raisonnable de la part des sociétés. On voit bien quand même l'inertie flagrante qui paralyse les décideurs aujourd'hui. Et puis on a aussi vu quand même, on en parle avec Frédéric là, dans notre ouvrage, on a aussi vu beaucoup de civilisations qui, en toute connaissance de cause, disparaissaient. C'est-à-dire qu'ils avaient les outils de connaissance pour s'en sortir et ils ne les ont pas utilisés. On l'a vu avec les Vikings en Amérique du Nord, on l'a vu sur l'île de Pâques. Et moi, quand j'avais fait un bouquin sur l'histoire des voyages dans les mondes polaires, à l'échelle un peu plus individuelle, on va dire, mais qui est quand même très révélatrice des comportements humains, je m'étais rendu compte qu'il y avait plein d'explorateurs au XVIIe, XVIIIe, qui s'étaient fait... dont les navires avaient été bloqués par les glaces et qui étaient non loin des Inuits et des Esquimaux, qui avaient des techniques de survie sur ces territoires, c'est-à-dire qu'il suffisait de tuer des phoques et de les manger crus, tout simplement pour avoir des protéines, et que ces Occidentaux refusaient.
Mais c'est pas bon.
Bah, c'est pas bon, mais enfin. Entre ça et mourir. c'est vrai que, bon. Vous n'avez jamais goûté ?
Non. Non, bon. Je serais mort.
Non, peut-être goûter, qu'on ne serait pas mort.
C'est pas si mauvais que ça. Mais en attendant, bon, c'est-à-dire qu'ils, vous voyez, ils refusaient. C'est-à-dire qu'il y avait une connaissance et il y avait un refus. Et en fait, les équipages mouraient. Ils n'arrivaient pas à passer l'hiver. Donc, bon, c'est pareil pour les Vikings. Ils avaient les Indiens non loin qui avaient des techniques de chasse particulières, agricoles particulières. Ils n'ont pas voulu se plier à ces techniques. Et puis, la civilisation, comme peau de chagrin, c'est... Donc, on peut se poser aussi la question.
C'est vrai que les Vikings aussi, ça les intéressait.
J'allais le dire un petit peu de manière décalée, mais c'est le même genre d'idée. Mais j'allais pas prendre une civilisation humaine comme exemple, mais les dinosaures. Nous on domine un petit peu la Terre en tant qu'humain depuis, allez, disons 2-3 millions d'années. Les dinosaures, ils l'ont dominé pendant 250 millions d'années. Bon, ben, ils se sont pris une météorite dans la figure, ils sont tous morts. S'ils avaient fait de la physique théorique, ils auraient peut-être pu détecter cet astéroïde. Au-delà de la blague, il y a quelque chose de positif quand même dans tout ça. Certes, les outils parfois n'ont pas été utilisés, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, certains d'entre nous n'auront pas l'idée de les utiliser. Et tant qu'une sorte de savoir est réservé, en tout cas, c'est ce que essaye de... C'est ce qu'on entend un petit peu dans certains discours de fait, où c'est inhérent à certains discours, qu'il y a certains qui ont le savoir, les autres pas. Bon, on prend la décision. En général, ceux qui prennent la décision, c'est ceux qui ne l'ont pas. Mais c'est pas très grave. Je me dis que si le savoir est répandu, c'est un peu utopique peut-être, mais en tout cas, je m'y tiendrai. Si le savoir était beaucoup plus répandu, partagé par beaucoup de gens, de fait, ça influerait les politiques.
Il n'y a pas de meilleure solution, de toute façon.
Il n'y en a pas d'autre.
Il n'y en a pas d'autre. Et c'est vrai que quand vous dites, d'ailleurs, c'est un peu le prince des nuages, c'est vraiment dans cette... Vous avez dit oui. Le mot utopique. Et c'est vrai que on est au cœur, en fait, finalement, de cette conception-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... d'ailleurs, bon, ça m'a fait sourire au bon sens du terme, parce que les îles nuageuses.
Oui. Parce que les enfants habitent sur les nuages. J'ai beaucoup d'enfants qui me demandent est-ce qu'on peut vivre sur les nuages ? Non, on ne peut pas.
Mais tous ceux qui prennent l'avion pensent que les nuages sont solides.
Les îles nuageuses, c'est une tradition utopiste. Ça a commencé avec, à ma connaissance, justement, ça a commencé avec Gulliver. On le retrouve chez Miyazaki. Enfin, c'est une vraie tradition, quoi. Il y a une famille qui, comme par hasard, pour beaucoup de ces auteurs-là, ont une vocation pédagogique, ce qui est la vôtre aussi. Et effectivement, cette rencontre-là, je suis d'accord avec vous, elle est indispensable. Après, on peut se poser des questions sur, voilà, d'une façon globale, sur la maturité de l'espèce humaine aujourd'hui. Ah, bon, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas.
Ben, si on est immature, il va falloir qu'on grandisse vite.
Il va falloir faire vite, oui.
Mais pour rebondir sur ce que vous dites là, il y a quelque chose quand même, une avancée technologique et extraordinaire sur 100 ans. On n'a pas eu le temps de la comprendre. En général, en passant du feu à la cuisson, ça a pris un petit peu de temps. De la roue à la Rolls, on a eu un peu de temps. De la compréhension de toutes les technologies qu'on peut utiliser à l'aspect, je crois que c'est Catherine Dolto qui disait ça hier, qu'on n'a pas eu le travail, elle appelle ça éthique, mais on peut prendre d'autres mots. On n'a pas encore eu ça. Ce que vous dites, je pense que vous avez assez raison, que par le passé, il y en a énormément qui n'ont pas fait ce travail-là par rapport aux connaissances qu'ils auraient pu acquérir. C'est à nous de choisir d'une certaine manière si on veut les avoir, ces connaissances, ou pas.
Enfin, nous, c'est aussi aux décideurs, c'est aussi aux gens qui ont le pouvoir et l'argent. Et qui, c'est pas, nous, simples citoyens, je veux dire, la question, elle est quand même, le potentiel d'action est quand même assez limité.
En tant qu'individu, je suis d'accord. En tant que peuple, un peu moins. Et plus il y a des gens qui sont au courant, plus les décideurs, enfin ceux qui sont élus pour décider, sont un peu, pas beaucoup, mais forcés de plier un peu quand même dans une certaine direction. Ouais. Ben, si on n'espère pas ça, autant rester chez soi.
On continuera quand même à faire quelque chose, mais c'est vrai que le front est assez compact quand même en face.
Mais alors, je me permets une quelque chose un peu fantaisiste. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Bon, dans les années 80, il y avait ce sentiment général, je ne sais pas si vous le partagez avec moi, que la science était là et allait résoudre tous nos problèmes. Il n'y aurait plus de sida bientôt, on arriverait à se téléporter, il y avait quelque chose d'ambiant, on va tout guérir toutes les maladies, etc. Ensuite, il y a eu un détournement de tout cet optimisme scientifique par des grandes marques. Je caricature. Mais du coup, que ce soit les industries de tabac et autres, se sont emparées du discours scientifique et il y a eu un doute profond qui s'est immiscé dans le savoir scientifique et du coup, tous les repères ou d'espoir qu'on pouvait avoir se sont effondrés. Et maintenant, les gens doutent des vaccins et de je sais pas quoi, et ça devient du grand n'importe quoi. Et il y en a qui disent que le climat, que les scientifiques se plantent sur le climat. Ça devient du grand n'importe quoi, il y a le discours qui s'est parti. Mais j'ai l'impression que ça revient, qu'il y a une sorte de confiance ou en tout cas pas forcément de confiance, mais de parole scientifique, disons honnête, qui ressurgit, qui redonne pas forcément un espoir, mais où on se redit à nouveau que la solution est peut-être là-dedans. Et là, je trouve que dans ce sens-là, il y a quelque chose d'assez optimiste et positif de changement de cap un petit peu, au lieu de douter de tout et de se dire que ça marche plus.
Parce que ce que vous disiez là, moi qui suis évidemment, ça se voit, plus âgé que vous, il y a déjà eu un premier élan comme ça, simplement avec les antibiotiques et la sécurité sociale.
Alors peut-être que c'est cyclique.
Tous nos problèmes étaient résolus. Les antibiotiques allaient tout guérir et on n'avait plus aucune angoisse puisque la protection sociale allait nous sortir de tous les drames du quotidien.
Et ces périodes d'engouement, d'exaltation sont forcément suivies de remise à niveau.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Réalité. En fait, c'est ce que je voulais dire. Il y a des allers-retours quand même.
Il y a des allers-retours.
Et on les constate depuis, j'ai presque envie de dire, depuis le 18e. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements vraiment d'expansion et de croyance en la science. Et puis après, c'est des remises en cause. Il y a quand même un jeu de yo-yo. On constate quand même un jeu de yo-yo. Il suffit qu'il y ait une crise, une guerre, une nouvelle épidémie pour que les choses basculent quand même. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est assez fluctuant.
Oui, mais c'est vrai qu'on aspire toujours être dans cet état parfait qui va nous assurer le bonheur et un peu l'éternité à l'état allons-y gaiement, et qu'on se rend compte très vite que c'était peut-être beaucoup visé. Mais en plus, je ne sais pas si c'est une bonne réflexion ou pas, mais par rapport à ce que vous disiez, on croyait que la science allait tout arranger. Bon, on n'arrange peut-être pas tout. Maintenant, autour de moi, je ne sais pas autour de vous, mais autour de moi, au moins 50% des gens se disent l'informatique va tout arranger.
Bon.
Ah. Non, mais si.
On n'a pas les mêmes amis, hein, parce que.
Non, si, moi, je vois ça autour de nous. Non, mais je t'assure, tu vas voir, tu peux débloquer ta voiture à distance, ta machin, tu pousses, tu appuies, tout va bien.
Ça aussi, c'est un.
Il faut voir la limite.
Après, il y a une vision française de ce que ça veut dire ça. Oui, et il y a une vision des autres pays. Oui. Parce que si on prend, je donne un pays au hasard, l'Indonésie, où il y a, je ne sais pas combien, de dizaines de millions d'enfants qui n'ont jamais eu accès à l'éducation et qui tout d'un coup l'ont. C'est une vraie révolution.
Oui.
Ils ont accès, tout d'un coup, l'outil informatique n'est pas du tout utilisé comme chez nous. Ou chez nous, c'est plus récréatif ou du travail, je ne sais pas quoi. Mais pour les enfants, c'est un vrai outil d'acquisition.
Non, quand je parlais des gens autour de moi, c'est forcément là, ici et maintenant. Hein,
Donc dans ce sens-là, je suis assez d'accord que ça peut faire, à l'échelle du globe entier, une différence. Oui. Chez nous...
Bon, après, il faut savoir aussi pour qui les scientifiques travaillent. C'est-à-dire que est-ce qu'ils travaillent. Ça peut être. Aujourd'hui, on sait que la plupart des grands scientifiques, enfin, l'imbrication entre les sciences et les lobbies d'argent sont quand même très forts. Donc, pour qui travaillent les scientifiques? Donc là, c'est quand même une question. Et est-ce que, bon, quand on voit, y compris dans le domaine des sciences humaines et de l'économie, quand on voit à quel point les économistes, par exemple, a fortiori pour les sciences appliquées. Bon, les économistes sont tellement rattachés à des groupes d'intérêts et que les universités le sont aussi. Enfin, surtout aux États-Unis, il y a quand même une imbrication qui est très forte entre certains pouvoirs. Donc là aussi, il faut quand même. Je ne sais pas si vous voulez.
Mais c'est là que l'éducation rentre en jeu, parce que lorsqu'on a des bases, on se fait quand même vachement moins avoir.
C'est sûr.
Par les charlatans, par les drôles de phrases qui sont sorties, par des prétendus scientifiques, par des je sais pas quoi. Après, de vouloir douter de la parole scientifique générale, je suis contre propager ça. On peut douter d'individus, mais la plupart des résultats scientifiques, c'est une communauté. Pas 3-4 gaillards dans leur coin, on parle de dizaines de milliers de personnes de par le monde, dont 99,99% ne gagnent pas d'argent en publiant leurs résultats. Et les levées de boucliers ont lieu. Il y a quand même peu de domaines dans lesquels une erreur est corrigée aussi vite. Certes, c'est l'impact médiatique de la première prise de parole qui reste. Mais 3 ans plus tard, c'est changé.
Enfin, en tout cas, sur l'histoire du changement climatique aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même la communauté scientifique globalement est d'accord. Hein. Maintenant, les cartes sont abattues. Je pense que de ce point de vue-là, à part peut-être encore quelques anciens ministres de l'éducation nationale qui peuvent remettre en cause les résultats.
Un peu bornés.
Voilà. Bon, à part ça, à part quelques vieux dinosaures, mammouths de ce genre-là, bon, je vois pas. Bon, et pourtant, voilà.
Je vais mettre un bémol là-dedans. Qu'il y ait des brebis galeuses, c'est une très bonne chose. même s'ils disent des bêtises. Mmh. Je vise absolument personne, pour le coup, moi en particulier, c'est général. Qu'il y ait une consultation générale et que tout le monde soit d'accord, c'est une chose. Qu'il y ait des brebis galeuses qui pensent différemment, c'est très bien. Et même s'ils disent des bêtises, parce que ça change. Et une des choses que je trouve extraordinaire sur ces rapports de l'ONU, qui est le dernier ayant été critiqué, etc., il est remis à jour tous les 6 ans. Il y a 10 000 personnes qui travaillent dessus dans le monde entier. La dernière fois, il y avait une grosse levée de boucliers. Tout le monde a dû, je ne sais plus combien de personnes qui ont dû démissionner parce qu'il y a eu une erreur sur le temps de fonte de l'Himalaya. Bon, moi, je l'ai lu, le rapport, en entier. En tout cas, le rapport scientifique de physique dure. Il y a 2400 pages. Les erreurs, c'était 2 pages. C'est rare. Et l'année d'après, enfin la publication d'après, les erreurs sont corrigées. Donc, au-delà de l'effet d'annonce, il y a quelque chose d'assez positif dans une sorte d'inertie globale qui change, qui corrige, qui avance. Ça n'arrive jamais qu'une décision politique, 3 mois plus tard, on dise « je me suis trompé, on va changer, pardon ».
Non, mais ça, c'est l'essence même du politique.
Peut-être, mais d'une certaine manière, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'optimiste là-dedans, de positif. Oui, il y a des bêtises. Oui, c'est humain. Mais sur le long terme, et même le plutôt court terme, les données sont là.
Sont là, oui.
Et corrigées.
Non, il y a un phénomène qui est sûrement marginal, mais dans ce qu'on appelle le grand public, hein, qui lui n'a pas les clés, il y a un attrait, il y a une fascination pour ces grandes catastrophes. Et presque on les attend. Rappelez-vous la fin du monde, les gens, il avait les terroriser et les exciter par ça. Et oui, ça, c'est quand même très étonnant.
Oui, parce que en fait, mais ça, on peut se poser la question, en fait, si vous voulez. On voit bien à travers les périodes, à travers les grandes tendances culturelles, qu'il y a cette fascination-là. Évidemment, par exemple, si on prend le 18e, 19e, enfin, le 19e, il y a tout le romantisme, par exemple, avait un rapport à la nature qui mettait en œuvre une fascination pour la fin, mais en même temps qui n'était pas une fin totale, où il y a toujours un désir d'aurore et de renouveau, etc. Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce qui est important aussi, c'est de, à la fois d'un point de vue scientifique et à la fois d'un point de vue, j'ai envie de dire, littéraire et symbolique, c'est important aussi d'avoir conscience des grands schémas qui nous animent au niveau de l'imaginaire collectif. Et de ne pas non plus être... Vous parliez tout à l'heure d'histoire de culpabilité. Il y a des discours écologistes qui sont culpabilisants, par exemple, et dont les fondements sont judéo-chrétiens et qui... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui rejoignent...
Dans ces termes-là, voilà.
Et c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait que de... Enfin, je veux dire, les résultats scientifiques sont juste, de toute façon, une parcelle de notre conception et de notre perception de l'univers. Ils ne peuvent être que parcellaires. Ils ne peuvent être que... Et notre imaginaire l'est aussi. Donc, peut-être que dans cet apprentissage-là, je pense que c'est important aussi de revenir à une forme de relativisme, mais qui n'est pas un relativisme négatif, si vous voulez, ou qui met la connaissance de côté. C'est juste simplement presque une question d'humilité, en fait, à laquelle on doit revenir. Parce que, mais cela dit, les scientifiques font... Je trouve, moi, que depuis quelque temps, les scientifiques ont perdu leur superbe, d'une certaine manière. Et tant mieux. C'est-à-dire qu'il y avait le mythe scientiste a quand même été largement pour X et X raison a quand même été un petit peu bousculée, on va dire,
écornée,
et tant
oui.
mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on va essayer aussi de peut-être... Enfin, il serait opportun de revenir à une perception un peu plus humble du rapport qu'on a à l'univers, et tout simplement de se dire aussi que, voilà, si on est des mauvais élèves parce que effectivement on accélère un processus comme jamais il a été accéléré, et que ça va peut-être nous apporter à nous avant tout, et peut-être moins aux étoiles de mer, de grosses difficultés, voilà, ce relativisme me semble, mais c'est pas négatif, hein, c'est pas anti-science, hein, je veux dire.
Donc je crois que le temps a passé très vite. Là,
je peux juste dire quelque chose.
Allez-y. L'ange gardien du sablier est venu me parler. Donc.
Parce que je ne suis pas d'accord du tout.
Ah, alors ça va peut-être prendre du temps.
Après, peut-être que quand vous dites univers, vous pensez monde. Mais si vous employez le mot univers, là, je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que l'imaginaire, notre perception, etc., est incroyablement moins vaste que ce que la science a permis de trouver. Donc c'est pas une question d'humilité, parce que l'humilité, de toute façon, elle existe là. C'est une humilité face à l'univers, peut-être, mais l'outil qui nous permet d'appréhender cet imaginaire qui est incroyablement plus vaste que tout ce qui a jamais été pensé par quelque humain que ce soit depuis l'origine des temps.
La philosophie orientale a quand même souligné la question de l'infini depuis belle lurette.
Et quand est sa nuit étoilée aussi.
On est allé beaucoup plus
oui,
loin.
Oui, mais après c'est une question de zéro, si vous voulez, notre conception même, notre perception. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que notre perception.
Mais
une
je
fois
suis pas
qu'on a,
je
une fois,
pas,
fois
pas non,
non. Vous croyez qu'on peut encore non, enfin sur la question de l'éternité, de l'infini, enfin sur la.
Non, je parle de la réalité, de notre univers tel qu'il. Il n'est pas perçu par nos sens. Et bien celui-là.
Ah oui, là on est d'accord, oui.
Celui-là est extraordinairement plus vaste que n'importe qui a pu imaginer.
Mais est-ce qu'il est accessible ? Est-ce qu'il est accessible finalement ? Est-ce qu'il nous est accessible ?
Via nos sens ?
Oui.
Non.
Ben voilà,
via la technologie, oui.
Oui, mais alors là pour le coup.
Est-ce qu'on peut en voir des effets ? Oui. Est-ce qu'on peut s'en servir pour des diagnostics médicaux ? Oui. Est-ce que ça a un impact sur nos vies ? Oui. Est-ce qu'on peut le maîtriser ? Oui. Est-ce qu'on peut le ressentir avec nos sens ? Non.
Non, voilà. Oui.
Mais on peut
ça
s'en
peut
servir.
Avoir un effet opératif, c'est ce que
oui,
vous, c'est ce que vous dites.
Voir.
On peut s'en servir.
Et ça, aucune. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres dans le futur, mais dans le passé, aucune autre forme, aucun autre langage, aucune autre approche n'a permis d'avoir un impact et une maîtrise pareille du réel que la science.
Oui.
Aucune. Donc le côté perdre sa superbe.
Réel, il faudrait se mettre d'accord aussi là-dessus. C'est des notions qui sont, c'est vite dit. Je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai l'impression, mais en astrophysique, vous le savez mieux que personne. Moi j'ai l'impression qu'on ne cesse aujourd'hui, enfin depuis quelques décennies, j'ai envie de dire, mais dites-moi si je me trompe, j'ai envie de dire que depuis quelques décennies, c'est là où je disais les scientifiques ont perdu leur super, parce que finalement ils reviennent à des philosophies des sciences qui sont plus proches des métaphysiques anciennes qu'elles ne l'ont été auparavant quand même. Ça,
non,
y a...
ça c'est pas vrai du tout.
Non,
non, non, non.
Sur la question, par exemple, de justement des trous noirs, sur la question de l'antimatière, sur la question de la relativité, etc. Il y en a pas mal qui ont posé les armes quand même
non. Non, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai du tout. La première chose, c'est que ce sont les théories ou les langages, etc., qui sont utilisés par les scientifiques, qui ont permis de découvrir ces mystères-là. On n'en serait même pas conscient si on n'était pas passé par la science. Donc on peut tout à fait dire qu'il y a des mystères qui sont dans la science d'aujourd'hui, c'est le cas. Ils sont incroyablement plus vastes que ce qu'on peut imaginer, mais on ne les connaîtrait même pas si on n'était pas passé par...
Oui, mais le mystère a toujours été là, il a toujours été vaste, j'ai envie de vous dire. C'est...
Non, ça, je suis d'accord. Mais
c'est pas une nouveauté,
ça. Il faut
replacer
les mystères par rapport au savoir d'une époque. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les mystères d'il y a 1000 ans paraissaient gigantesques. Tout comme les mystères qu'on a, nous, aujourd'hui, nous paraissent gigantesques. Et nos mystères à nous d'aujourd'hui seront peut-être petits pour le futur. Et voilà. Mais il se trouve que dans ce que nous savons aujourd'hui du monde, la partie connue déjà est extraordinairement plus vaste que toutes les parties connues auparavant, et probablement moins vaste que toutes les parties qui seront connues plus tard. Et ça nous a en plus permis de découvrir des inconnus, des mystères qu'on ne connaissait pas. On ne savait même pas qu'il y avait un mystère à ces endroits-là, on ne le savait pas.
Exemple.
Je parle exactement de ce que vous avez cité, la matière noire, l'énergie noire. Trou noir, c'est un petit peu différent. Mais dans ces domaines-là, c'est comme si vous découvriez tout d'un coup un nouveau métal.
Oui.
Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous avez fait une recherche et vous l'avez trouvé, ce nouveau métal. Et du coup, vous pouvez ensuite l'étudier, rentrer à l'intérieur. On ne peut pas faire du jour au lendemain avoir ces mystères qui sont résolus. De dire que les scientifiques ont baissé les bras, c'est exactement l'inverse. Tout le monde est là. Oh, il y a
un
mystère
gigantesque. Je suis d'accord, mais il n'empêche que le scientifique ou non, la question devant une tombe ouverte au décès d'un ami se pose de la même façon qu'elle se posait il y a 100 000 ans pour les néandertaliens. Donc ce que je veux dire, c'est que là, c'est, au fond, effectivement, il y a des perceptions, il y a des nouveaux outils, des nouveaux objets. Je dis pas le contraire, mais au fond, dans notre inventaire des mystères, je suis pas sûr qu'il y ait des nouveautés. Enfin, finalement, notre condition humaine.
Je vais vous le donner le livre.
Je veux bien, ouais.
Voilà, on va terminer sur un beau geste. On n'a peut-être pas beaucoup de temps, alors deux questions, si vous voulez. Si vous n'êtes pas en train de continuer à assimiler tout ce qui vous a été donné, parce que c'était quand même incroyablement riche, tout ce que vous venez de dire. Pardon ? Voilà, ils ne mangeront pas, ils parleront. À part ça, oui.
Ah mais bien entendu, je ne pense absolument pas que la science soit systématiquement le seul moyen de sortir de tout. Et je suis persuadé du contraire d'ailleurs. Il y a le côté humain qui est beaucoup plus fort que toute équation que vous pourrez trouver quelque part. Et toutes ces approches dont vous parlez, elles sont justifiées, justifiables, louables, etc. Pour certaines en tout cas, j'imagine. Et évidemment, après, la connaissance dont je parle, c'est quelque chose qui, quelque part, fait du bien à l'âme et du coup au corps. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas face à uniquement des obstacles de compréhension, des zones d'ombre, des zones de catastrophe et tout ça. Oui, les catastrophes existent, on peut peut-être les appréhender. C'est toujours mieux qu'une catastrophe qui ne peut pas être appréhendée et qui est programmée. Voilà, c'est dans ce sens-là,
juste,
évidemment.
Juste, ça fait du bien à l'âme, dit-il.
Écoutez, je vais me permettre d'emprunter, alors je ne sais pas si c'est à Farid ou à Frédéric, trois lignes de conclusion qui vont pour tous vos livres, à tous les deux.
Hier, on m'a appelé Jean-Christophe, maintenant c'est Frédéric, c'est pas mal.
Frédéric, c'est mon co-auteur.
Pardon, d'accord.
C'est Frédéric Danhel, co-auteur de...
Enfin, si vous, dites-moi comment vous voulez que je vous appelle, moi j'ai aucun a priori. Ah ben d'accord, non parce que je pense que ça s'applique vraiment aux deux. Mon but est de faire des livres intelligents, informés, originaux, pour le grand public dont le niveau fait sciemment l'objet d'une régression, ou pour le moins d'un maintien dans la médiocrité de la part des grands médias et des agents de la société du spectacle. Donc en fait, ce sont des livres prophylactiques, ce sont des livres médicaux pratiquement que je vous conseille d'aller chercher et d'aller faire dédicacer. Alors pour ce qui est de kidnapper les auteurs, là vous avez quartier libre, allez-y. En tout cas, merci beaucoup. On va les applaudir tous les deux parce
merci.
Que...
Merci.
C'est quand même bien les gens qui vous donnent l'impression tout d'un coup de devenir intelligent. Ça, c'est... Bon, ça va s'arrêter une fois franchi la porte, mais merci.